Bonjour à toutes, bonjour à tous. Avez-vous déjà pris la parole pour conjurer l'angoisse? Parler pour vous rassurer. Même lorsqu'on parle pour parler, on ne parle jamais pour ne rien dire. Dès qu'on parle, on dit quelque chose. Derrida le sait bien, lui qui pense la trace, le papier et l'archive, mais qui aime parler la philosophie, qui aime les marques de la voix, du rythme, de la parole. Quelle différence alors entre l'écrit et l'oral, entre le texte et la langue? Parler, même à la radio, c'est toujours aussi laisser des traces. Elle est en route sur les chemins de la philosophie. La parole est à la voix.
Comme d'habitude, on avait tout préparé. Et le hasard est venu tout déranger. À quoi ça servirait de rester à piétiner? J'ai une bonne recette pour pas trop m'angoisser. C'est pas philosophes perdent quelquefois leur chemise, mais c'est quand même drôle de les écouter. Ça fait de la musique et puis ça nous distrait de parler, parler.
Contrairement peut-être à ce que certains auraient tendance à croire, je ne prends pas beaucoup de plaisir à écrire, c'est-à-dire à me trouver devant une feuille de papier et à faire des phrases. En revanche, aussi contrairement à ce que peut-être certains croiraient, j'aime parler. Et la philosophie. Par exemple, j'aime enseigner dans certaines conditions. J'aime certaines manières de parler la philosophie, qui pour moi est une manière d'écrire. Et je crois que dans ce que j'écris, alors au sens de la graphie ou de la publication, l'expérience de la voix, du rythme, de ce qu'on appelle la parole, se marque toujours.
Bonjour Charles Ramon.
Bonjour.
Bienvenue sur le chemin de la philosophie. C'est un grand plaisir de vous y recevoir car vous êtes l'auteur, entre autres, d'un dictionnaire Derrida et d'un vocabulaire de Jacques Derrida, tous deux publiés aux éditions Ellipse, qui sont des aides indispensables à tous les étudiants qui s'attellent au travail de Derrida et à tous les autres d'ailleurs. Hein, vous arrivez à rendre clair des concepts qui sont parfois très hermétiques. Donc merci et bravo au nom de tous ceux qui vous ont lu ou qui vont vous lire. Il est étonnant d'entendre Derrida, ici c'est un extrait du Bon Plaisir, l'émission de France Culture de 1986, dire qu'il préfère parler la philosophie que l'écrire.
Bien, c'est un très bon extrait en effet parce que j'ai toujours considéré, enfin c'est une évidence pour tous ceux qui le lisent, que Derrida est d'abord un philosophe musical. C'est-à-dire que c'est un philosophe polyphonique, c'est un philosophe mélodique, c'est un philosophe qui écrit admirablement le français et qui a consacré d'ailleurs un très important ouvrage à toute la question de la voix, c'est Gla, un des livres les plus difficiles de Derrida, mais qui est difficile seulement dans son écriture, si j'ose dire, mais qui est très simple au fond dans sa thématique générale, puisque comme l'indique le titre lui-même, Gla, il s'agit d'une réflexion sur la syllabe gl, cette espèce de son indistinct qu'on fait lorsque la gorge se serre, c'est-à-dire lorsqu'on ne peut plus parler. Et donc lorsqu'on est soumis à l'émotion et non plus capable de raison ou de raisonnement. Et donc toute cette question de la voix, de la gorge qui se serre, de ce qu'il appelle parfois la stricture ou l'étranglement, est absolument centrale chez Derrida. Et ça a donné lieu d'ailleurs, de sa part et de la part d'autres philosophes, notamment aux États-Unis, à des controverses particulièrement significatives dont on peut parler...
Dites-nous un exemple.
Oui, par exemple, un des grands philosophes américains contemporains, Stanley Cavell, a comme théorie que les philosophes, et notamment les philosophes français, sont ce qu'il appelle des sceptiques, et plus exactement, c'est pas le mot qu'il emploie, mais c'est bien ce qu'il veut dire, des étrangleurs, c'est-à-dire des gens qui suffoquent la voix de ceux qui veulent s'exprimer. Ce sont donc des gens qui intimident. Et il rangeait Derrida comme un étrangleur ottoman tout particulièrement efficace, parce que Derrida faisait peur par la difficulté de ses écrits et empêchait la voix de s'exprimer. Et Derrida a, au contraire, toute sa vie consacré de très importants travaux à cette voix, et il n'y a pas du tout raison de les opposer comme on le fait parfois.
Mais Stanley Cavell, qui par ailleurs est un philosophe de la voix, pour le coup, qui a beaucoup réfléchi sur la prise de parole, le langage ordinaire et la qualité même de la voix du philosophe.
Ben bien sûr. Si vous voulez, il y a, entre Cavell et Derrida, il y a une sorte d'alternative très extraordinaire sur le XXe siècle, puisque en gros, la thèse de Derrida, la thèse générale, c'est que toute l'histoire de la pensée est une oppression de l'écriture par la voix, c'est-à-dire une prééminence de la voix, l'oralité étant toujours première et l'écriture toujours secondaire, méprisée, alors que Cavell, au contraire, soutient que la véritable victime, c'est la voix, et que Derrida, en défendant l'écriture contre la voix, n'a fait que poursuivre le travail millénaire des philosophes contre la voix ordinaire.
Reste à voir si de quoi est fait ce combat, parce que c'en est presque un entre l'écriture et la voix. Il faut remonter pour cela, Derrida le fait lui-même, donc emboîtons-lui le pas, jusqu'à un mythe, le mythe de Teute, que raconte Platon dans le Phèdre, qui est un texte vraiment passionnant, parce qu'il relate comment la naissance même de l'écriture, on oublie qu'il y a pu avoir un temps où l'écriture n'existait pas, était vécue par Platon sans doute, comme un péril, comme si finalement l'écrit allait tuer l'oral. Écoutez ce texte.
J'ai ouï dire qu'il existait près de Naucratis, en Égypte, un des antiques dieux de ce pays. Ce dieu se nommait Teute. Et c'est lui qui, le premier, inventa la science des nombres, le calcul, la géométrie, l'astronomie, le trithraque, les dés, et enfin l'écriture. Le roi Tammouz régnait alors. Teute vint trouver ce roi pour lui montrer les arts qu'il avait inventés. On dit que Tammouz fit à Teute beaucoup d'observations pour et contre chaque art. Il serait trop long de les exposer. Mais quand on en vint à l'écriture, « Roi, lui dit Teute, cette science rendra les Égyptiens plus savants et facilitera l'art de se souvenir, car j'ai trouvé un remède pour soulager la science et la mémoire. » Et le roi répondit, « Très ingénieux Teute, tel homme est capable de créer les arts et tel autre est à même de juger quel lot d'utilité ou de nocivité ils conféreront à ceux qui en font usage. Et c'est ainsi que toi, père de l'écriture, tu lui attribues par bienveillance tout le contraire de ce qu'elle peut apporter. » Elle ne peut produire dans les âmes, en effet, que l'oubli de ce qu'elles savent en leur faisant négliger la mémoire. Parce qu'ils auront foi dans l'écriture, c'est par le dehors, par des empreintes étrangères, et non plus du dedans et du fond d'eux-mêmes, que les hommes chercheront à se ressouvenir. Tu as trouvé le moyen non point d'enrichir la mémoire, mais de conserver les souvenirs qu'elle a. Tu donnes à tes disciples la présomption qu'ils ont la science, non la science elle-même. Quand ils auront, en effet, beaucoup appris sans maître, ils s'imagineront devenus très savants. Et ils ne seront pour la plupart que des ignorants de commerce incommode, des savants imaginaires, au lieu de vrais savants.
Parler du langage chez Derrida peut en effrayer plus d'un, Charles Ramon, tant Derrida a une utilisation que l'on qualifie parfois d'hermétique, il s'en défend, et on l'entendra s'en défendre tout à l'heure, hein, du langage. Il invente des mots qui semblent ne rien vouloir dire. Le point de départ de sa réflexion sur le langage et de son utilisation dans et par l'écriture, c'est bien ce qu'on peut appeler une espèce de lutte millénaire entre la langue écrite et la langue parlée. Dans ce mythe, cette lutte est parfaitement bien exposée. L'objection est de dire que l'écriture va soulager l'esprit de la tension dans laquelle il doit être pour incorporer le savoir, et donc l'écriture va conduire à l'ignorance.
Oui, c'est un très grand paradoxe, et d'ailleurs vous avez bien fait de citer ce passage de la Pharmacie de Platon, qui est le commentaire que Derrida a donné du dialogue de Platon, le Phèdre, parce que c'est évidemment tout à fait fondamental pour bien comprendre ce que veut faire Derrida. Alors, il faut bien comprendre qu'au départ, Derrida est quelqu'un qui introduit en philosophie la question de l'écriture, ce qui peut paraître extraordinaire, puisque au fond, cette question, l'écriture est la matière même de la philosophie. On aurait sans doute pu y penser avant. Et c'est une espèce d'impensée de la philosophie jusqu'au XXe siècle, et que Derrida donc met au jour et qu'il explicite complètement. qu'est-ce qui se passe? Au départ, l'idée spontanée, et qui est d'ailleurs partagée par les plus grands philosophes, c'est qu'il y a une antériorité de l'oralité sur l'écriture. Il y a d'abord eu des paroles, des langues sans écriture, et ensuite des langues écrites. Et donc cette antériorité chronologique est le plus souvent vécue comme une supériorité de l'oral sur l'écrit. Et d'ailleurs, la meilleure preuve en est que les plus grands fondateurs de civilisations, comme le Christ ou comme Socrate, sont renommés précisément pour ne pas avoir écrit. C'était des gens qui parlaient et seuls leurs disciples, donc des gens inférieurs, écrivaient. Et donc, dès l'origine, dans l'imaginaire collectif de toutes nos civilisations, il y a une préférence, une antériorité, une supériorité de la parole orale, chaleureuse, directe, en présence, par rapport à la parole écrite, qui est lointaine, froide, qui perdure par-delà la mort et qui donc a quelque chose d'un petit peu inquiétant. Et donc, Derrida, si on voulait lui donner un rôle positif dans l'histoire de la philosophie, a non seulement mis au jour l'importance de cette controverse, mais il l'a d'une certaine façon résolue. Et oui, il l'a résolue parce que l'idée spontanée, c'est que l'écriture est une simple extension de la parole. Mmh. Quand on parle à quelqu'un, on est forcément assez près, comme vous êtes par rapport à moi, à quelques mètres. Et lorsque la distance augmente, soit dans l'espace, soit dans le temps, si par exemple on veut s'adresser à des gens qui ne sont pas encore nés, eh bien on est obligé d'employer un autre moyen, la parole ne suffit pas. Et donc on emploie l'écriture pour remplacer, pour suppléer à l'absence de la parole, comme dira Derrida, et pour l'étendre. Et à ce moment-là, évidemment, l'écriture est dans une double relation par rapport à la parole. À la fois elle peut en tenir lieu, mais en même temps elle l'altère, elle la corrompt. Et donc, on a à la fois cette espèce de fascination positive pour l'écriture, c'est un moyen puissant d'extension de la parole, et en même temps un mépris puisqu'elle n'est que un moyen de transmission de la parole et qui parfois peut prendre indûment sa place, comme le mort prendrait la place du vivant. Et donc, Derrida remarque cette structure de mépris philosophique de l'écriture par rapport à l'oralité tout au long de l'histoire de la philosophie. Les plus importants représentants sont Platon, vous venez de le lire, mais ensuite ça se reproduit tout au long de la philosophie chez des gens comme Rousseau par excellence, mais encore bien d'autres. Il le repérera chez tous les philosophes, à vrai dire. Et il propose un schéma de pensée qui met fin à cette espèce de dichotomie absurde. Parce qu'on ne voit pas pourquoi quelque chose qui tiendrait lieu d'autre chose, c'est l'écriture qui tient lieu de la parole, pourrait être en même temps son corrupteur. C'est une espèce de contradiction logique. Donc Derrida a proposé de renverser les choses et de dire que la véritable communication ne doit pas être comprise sous le mode d'abord l'oral, puis l'écrit qui le dégrade, mais il a proposé d'inverser les choses et de dire en réalité, toute communication se fait toujours dans l'absence. Même quand vous êtes en face de moi, à quelques mètres, vous êtes en fait absente par rapport à moi. Je ne sais pas ce que vous avez en tête, vous pensez peut-être à autre chose, vous n'êtes pas entièrement attentif, moi-même peut-être je ne suis pas très attentif à ce que je dis moi-même. Donc il y a toujours en réalité une absence. Et donc l'idée de Derrida, c'est de dire qu'en réalité, toute communication, même une communication orale, est une communication à l'absence, et donc, en réalité, est une espèce d'écriture. C'est comme si, en vous parlant, je vous adressais une lettre à quelqu'un qui est plus absent qu'on ne pourrait le croire.
En fait, ce que Derrida pointe, c'est le décalage constitutif entre le langage et celui qui parle. Que ce soit les mots prononcés ou les mots écrits sont toujours le signe, vous dites, d'une absence, c'est-à-dire de quelque chose qui a déjà été dit, mais qui n'est pas là au moment où on le dit.
Oui, c'est-à-dire que...
Il n'y a pas de simultanéité.
Il propose, si vous voulez, de remplacer le modèle de la communication qui était le modèle de la présence, c'est-à-dire la parole orale en présence. Il propose de suggérer que ce n'est pas une bonne façon de concevoir la communication et qu'il faut faire de l'absence le modèle principal. C'est-à-dire qu'en réalité, qu'on parle, qu'on écrive, ou qu'on parle à la radio, qu'on envoie et qu'on écrive des livres ou des lettres, on écrit toujours à des gens absents. Et donc la thèse de Derrida, c'est que le modèle de la communication, c'est l'écriture, c'est-à-dire la parole qui s'adresse à des gens absents, et que, c'est ça le paradoxe, évidemment un peu difficile mais très clair je pense maintenant, l'oralité n'est qu'une des sous-parties de cette communication générale dans l'absence, c'est-à-dire de l'écriture.
Mais cette absence, il la décrète. C'est-à-dire qu'on ne peut pas prouver que la personne, nos destinataires, aujourd'hui nos auditeurs ou vous-même Charles Ramon, soyez absent. C'est-à-dire qu'il y a quand même une modalité de la présence.
Oui, mais en réalité, vous ne communiqueriez pas avec quelqu'un d'entièrement présent.
Ah bon?
Si nous étions entièrement présents l'un à l'autre, nous n'aurions pas besoin de communiquer, nous serions déjà en train de communiquer. Si vous voulez communiquer quoi que ce soit, c'est-à-dire une description, une pensée, vous êtes obligé de vous arracher momentanément au monde qui vous entoure, de faire un choix, de sélectionner ce que vous allez dire, donc de vous en absenter quelque peu. Et de même, pour entendre quelqu'un qui vous parle, vous êtes obligé de faire une sélection dans vos champs d'intérêt, etc. Donc en réalité, la communication, qu'elle soit parlée ou écrite, suppose toujours un arrachement au contexte.
En tout cas, suppose toujours l'altérité. On ne communique avec quelqu'un qui n'est pas nous, sinon il n'y a plus de communication qui s'impose.
Bien sûr. Mais non seulement qu'il n'est pas nous, mais nous-mêmes, nous sommes assez absents à nous-mêmes. On s'ignore soi-même. C'est quand même l'essentiel de la psychanalyse. C'est l'essentiel de tout un courant du roman contemporain. On peut penser à Nathalie Sarraute, on peut penser à bien d'autres. Nous sommes en fait tout à fait ignorants et absents à nous-mêmes, comme aux autres, comme au monde. Donc nous sommes sur un fond d'absence généralisée. Et c'est dans cette absence généralisée que nous émettons des messages. Et ces messages peuvent prendre la forme de l'écrit ou de l'oral. Ils sont toujours en réalité des messages écrits, c'est-à-dire des lettres ou des cartes postales, qui est le modèle ultime de la communication chez Derrida.
Le titre d'un de ses ouvrages d'ailleurs, carte postale.
Voilà, la carte postale. Et donc, de ce fait-là, il réconcilie, comme je vous l'ai dit, les deux choses, puisqu'au fond, on n'a plus à opposer une parole orale originaire à une écriture secondaire et dérivée, mais l'oralité n'est qu'une des modalités de ce qu'il appelle archi-écriture.
Qu'est-ce que l'archi-écriture ? Vous lancez un des mots voilà. Mots-clés, il y en a bien d'autres.
C'est un des mots-clés de Derrida. L'archi-écriture, c'est ce que je viens de dire, c'est cette parole, c'est cette modalité de communication qui fait qu'en réalité, quelle que soit la façon dont je m'adresse à quelqu'un, je m'adresse toujours à quelqu'un d'absent. Donc en réalité, le bon modèle de la communication humaine, c'est toujours la lettre qu'on envoie, c'est-à-dire quelque chose d'écrit. On communique toujours avec un absent.
Est-ce qu'on peut parler, est-ce que l'email jouerait cette fonction aujourd'hui, le courriel ?
Vous écrivez toujours à un absent, même si vous vous écrivez à vous-même. Par exemple.
Donc c'est pas la notion de papier ou de matière qui importe, non, c'est le fait d'écrire.
Non, bien sûr. Non, ça n'a aucun rapport. Il prend l'exemple dans sa controverse avec un philosophe américain, Searle. Il prend l'exemple de la liste des courses. Lorsque vous faites la liste des courses, c'est comme si vous vous écriviez à vous-même de ne pas oublier d'acheter telle et telle chose. Et donc vous écrivez à vous-même, c'est-à-dire en fait à quelqu'un d'absent. C'est-à-dire, vous ne savez pas encore qui vous serez dans une heure si vous n'aurez pas oublié les choses que vous deviez acheter. Et donc, il est utile de vous écrire cette lettre à vous-même en tant qu'absent pour ne pas oublier la chose que vous devez faire. Donc, toute communication qu'elle s'adresse aux autres ou à soi-même est toujours une communication à quelqu'un d'absent. C'est quand même une idée facile à comprendre. Et si on considère que la communication se fait toujours à quelqu'un d'absent, alors le modèle de la communication, c'est l'écriture. Et quand on parle, en réalité, on écrit d'une certaine façon.
Alors pourquoi, dans ce cas, de la part de Derrida, inventer tant de vocabulaire ? Vous avez cité archi-écriture. Si j'ouvre le vocabulaire de Derrida, dont vous êtes l'auteur, Charles Ramon, on trouve entérection, énantiose, coup de donc, carno-phallogocentrisme, concubinaison. Enfin bon, je pourrais continuer. Ce sont des mots qui frôlent soit la poésie dans le meilleur des cas, soit le non-sens dans le pire des cas, mais qui en tout cas provoquent une forme de distance de la part du lecteur.
Oui, alors Derrida est effectivement, mais comme tous les grands philosophes, l'auteur d'une très abondante création verbale. Et simplement, cette création a des fonctions bien particulières. Il n'emploie pas que des mots comme ceux que vous venez de citer, c'est-à-dire des mots valises ou des mots composés qui sont parfois drôles, parfois stupéfiants. Mais il joue aussi beaucoup sur les ambiguïtés du langage normal. C'est-à-dire que, par exemple, si vous prenez un mot comme « donner », eh bien, « donner », tout le monde comprend ce que signifie « donner ». Mais dans certains cas, par exemple, Derrida fait remarquer que « donner » est synonyme de « prendre ». Comme par exemple, vous dites « je donne un exemple », on dit aussi « je prends un exemple ». Donc, le langage le plus courant, est plein d'ambiguïtés auxquelles on ne fait pas toujours allusion. On ne fait pas toujours attention.
Ouais.
Et donc, Derrida s'intéresse beaucoup à ces ambiguïtés du langage parce que précisément, il veut créer une langue qu'on ne puisse pas traverser immédiatement par le sens. C'est-à-dire qu'il résiste un tout petit peu à ce qu'il appelle la relève ou la transsubstantiation, c'est-à-dire le fait d'oublier progressivement qu'on est devant quelque chose d'écrit pour directement aller au sens. Donc Derrida a toujours voulu maintenir présent à l'esprit du lecteur qu'il est devant quelque chose d'écrit.
Le texte.
Voilà. Et donc, il produit un texte résistant à la compréhension pour qu'on soit obligé, comme je dis, de regarder vers le bas. C'est-à-dire un peu comme dans un champ de mine. Chaque mot peut vous exploser sous les pieds. Au lieu de regarder tout de suite vers le ciel, le sens et la signification des termes, et de considérer un peu que le langage est translucide. C'est qui l'ambition de la philosophie en général. Mais ce qui consiste aussi à oublier l'écriture. Donc si Derrida invente des mots comme ça, qui arrêtent les regards, qui le surprennent, qui font rire, qui sont polyphoniques, qui sont parfois hermétiques, c'est justement pour que le lecteur d'abord lise lentement, et ensuite n'oublie jamais qu'il est devant un texte écrit.
Mais donc c'est souvent au dépend de la communication. On parlait de l'écriture comme cette modalité de la communication dans l'absence. Attirer l'attention sur le texte lui-même plus que sur le sens auquel il renvoie, c'est attirer l'attention sur quelque chose qui n'est pas justement le sens, c'est sur un objet, sur un texte.
Oui, mais bien sûr.
Donc il ne s'adresse pas forcément au lecteur, il veut proposer une expérience au lecteur. C'est quasiment une œuvre d'art en fait.
Oui, ça serait plutôt... Oui, vous avez raison d'appeler le mot d'œuvre d'art, ça serait comme une écoute musicale. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas si facilement que ça traverser ce qui vous est proposé vers autre chose. Or, c'est ce fantasme que nous avons tous. Quand on lit un philosophe, on veut comprendre. C'est pour ça qu'on cherche à avoir des résumés, qu'on veut que quelqu'un vous explique, qu'on puisse en quelque sorte faire l'économie de la lecture patiente, de la lecture longue, de la méditation, des mises en rapport entre les énoncés, les phrases, etc. On voudrait des raccourcis et on veut surtout, c'est le fantasme humain par excellence, avoir accès à un sens transparent et immédiat. C'est un fantasme mystique en réalité. Et Derrida fait tous ses efforts pour décevoir et pour empêcher la réalisation de ce fantasme.
C'est ça, c'est parfois lire Derrida et parfois comme se promener à la FIAC, dans la Foire Internationale d'Art Contemporain, et voir des œuvres qui nous surprennent et dont on ne comprend pas le sens. Écoutez comment Derrida lui-même se défend, en tout cas se vexe lorsqu'on lui dit qu'il a une écriture compliquée, comment il s'en défend. Voici les vertus de l'hermétisme.
Ceux qui m'accusent d'hermétisme, c'est ou bien qu'ils ne font pas le travail, et je crois que tous les textes appellent un certain travail, ou bien ils en comprennent assez, ils savent que les lecteurs ou les auditeurs en comprennent assez pour penser qu'il faut pas, il vaut mieux rejeter ça d'avance. Hein. Donc je crois que l'accusation d'hermétisme ne tient pas. D'abord parce que je fais tout ce que je peux pour être clair, dans la mesure où la clarté ne nuit pas à la complexité des choses, bien sûr. Au-delà même du contenu, la manière dont les codes, hein, ou les normes d'écriture ou de langage que j'ai cru devoir proposer, paraissait même plus menaçant que le contenu même, si on peut dire. C'est la manière de formuler les questions, de parler, de s'adresser à l'autre, de faire des phrases, de croiser des références. Autrement dit, ou ce qu'on appelle couramment la rhétorique ou la manière d'écrire, ont été probablement jugés plus redoutables encore que le contenu même. Je crois que quand quelqu'un propose un contenu, disons, révolutionnaire, entre guillemets, dans le code courant de la rhétorique, sans gêner, sans remettre en question les normes institutionnelles, eh bien, l'université ou les institutions en général l'acceptent beaucoup plus facilement que quand quelqu'un change la mise en scène, hein, ou s'interroge sur la scène même, hein, sur l'organisation des protocoles et des procédures, des évaluations, des hiérarchies, etc.
Je parlerai donc d'une lettre, de la première, s'il faut en croire l'alphabet et la plupart des spéculations qui s'y sont aventurées. Je parlerai donc de la lettre A, de cette lettre première qu'il a pu paraître nécessaire d'introduire, ici ou là, dans l'écriture du mot « différence ». Et cela au cours d'une écriture sur l'écriture, d'une écriture dans l'écriture aussi, dont les différents trajets se trouvent donc tous passés, en certains points très déterminés, par une sorte de grosse faute d'orthographe, par ce manquement à l'orthodoxie réglant une écriture, à la loi réglant l'écrit et le contenant en sa bienséance. Qu'on cherche donc à passer telle infraction sous silence, l'intérêt qu'on y mettra se laisse d'avance reconnaître, assigner, comme prescrit par l'ironie muette, le déplacé inaudible de cette permutation littérale. On pourra toujours faire comme si cela ne faisait pas de différence. ce manquement silencieux à l'orthographe, je dois dire dès maintenant que mon propos d'aujourd'hui reviendra moins à le justifier, encore moins à l'excuser, qu'à en aggraver le jeu d'une certaine insistance. Cette différence graphique, le A au lieu du E, cette différence marquée entre deux notations apparemment vocales, entre deux voyelles, reste purement graphique. Elle s'écrit ou se lit, mais ne s'entend pas. On ne peut l'entendre et nous verrons aussi en quoi elle passe l'ordre même de l'entendement. Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie, il est 10h26, nous parlons de Derrida cette semaine, aujourd'hui le dernier tome de notre série sur Derrida en compagnie du philosophe Charles Ramon, et vous allez enfin comprendre pourquoi Derrida écrit différence avec un A, enfin j'espère Charles Ramon, expliquez-nous.
Oui, je vais essayer de jouer mon rôle et de satisfaire ce désir de sens que je mentionnais tout à l'heure. Écrire différence de temps en temps avec un E ou de temps en temps avec un A, c'est une façon pour Derrida très simple et qui a eu un succès absolument universel d'illustrer sa thèse telle que je l'ai expliquée tout à l'heure, c'est-à-dire sa thèse de l'archi-écriture. C'est-à-dire sa thèse selon laquelle, en réalité, c'est toujours une écriture qui est première, même dans la parole orale. Ça semble défier le bon sens, je suis d'accord. Nous savons tous que les peuples ont parlé avant d'écrire. Mais Derrida maintient néanmoins que lorsqu'on parle, il y a toujours une espèce d'écriture derrière. Et le mot de différence avec un A est là pour manifester de façon un peu amusante et provocatrice ce phénomène. Qu'est-ce que ça veut dire ? Vous ne pouvez pas faire entendre le mot différence, avec un, enfin faire savoir s'il s'agit du mot différence avec un A ou avec un E, sans l'épeler. C'est-à-dire sans vous référer à l'écriture de ce mot. Et donc...
Et passer par la voix, paradoxalement. Pour épeler, il faut parler.
Oui, c'est vrai, vous avez raison. Mais l'épellage n'est que accessoirement quelque chose de vocal. On pourrait très bien épeler, si j'ose dire, par écrit, au tableau, par exemple. Mais l'essentiel est que on manifeste de cette façon l'idée que sous l'oralité, et non pas après l'oralité, mais avant l'oralité, comme fondement de l'oralité, il y a une écriture. Il y a donc toujours une archi-écriture. Et c'est ce que nous voulons absolument oublier. Nous voulons absolument être dans l'oralité, être dans la présence, être dans la communication immédiate, un peu comme les mystiques voulaient voir Dieu, ou comme les mathématiciens veulent avoir l'intuition des vérités. C'est un fantasme absolument fondamental dans l'humanité. Et ce fantasme est contrarié par le fait qu'en réalité, soutient Derrida, toute communication suppose une distance, un éloignement, des médiations, des vérifications, et qu'on n'atteint jamais cet état de contact qui est en fait ce dont nous rêvons fondamentalement.
Mais c'est comme si Derrida vivait dans un monde où tout était clair, où nous aurions accès à cette espèce d'intuition originelle, comme si nous manquions d'obstacles. C'est-à-dire que l'expérience quotidienne, qu'elle soit celle absolument quotidienne, c'est-à-dire quel que soit le métier ou l'activité que nous faisons, ou celle de la lecture de textes philosophiques, est bien loin d'être de l'ordre de cette transparence absolue. Ce que je veux dire, c'est que le travail d'obscurcissement de Derrida, le travail sur la langue qui consiste à essayer de proposer des formes d'obstacles pour rappeler qu'il y a une écriture derrière, est-elle vraiment nécessaire ? Nous vivons de toute façon dans un monde où on a du mal à trouver un sens, où les choses sont assez obscures.
Oui, c'est intéressant ce que vous dites. On pourrait le soutenir, en effet. Mais je répondrai à cela deux choses. D'une part, pour le vecteur fondamental de notre rapport au monde, à savoir la langue maternelle, nous n'avons pas cette sensation. La langue maternelle est vraiment le lieu d'une translucidité tout à fait considérable. Lorsque je vous parle en ce moment, lorsque je parle à n'importe quel Français, la mère, cette langue maternelle, se présente vraiment comme quelque chose de transparent, d'évident. Il n'y a aucune difficulté de compréhension, c'est une expérience unique. Un grand philosophe français contemporain, Jacques Rancière, s'y est beaucoup intéressé. Il y a une différence tout à fait considérable entre la langue maternelle et toutes les autres langues. Mmh. Si vous parlez anglais, si vous parlez allemand, même très bien, vous devrez toujours un peu froncer les sourcils, écouter un peu attentivement. Tandis qu'une langue maternelle, ça vous coule dans les oreilles comme quelque chose d'absolument évident. Et ce modèle-là, donc ça fait déjà un élément factuel, qui n'est pas d'obscurcissement. Et c'est bien avec notre langue maternelle que nous avons accès à tout le reste. Et deuxièmement, je pense que ce modèle de la translucidité, de la transparence de la langue maternelle, devient par ailleurs un fantasme. C'est-à-dire que nous cherchons à le retrouver dans toutes les autres formes de communication. Alors bien sûr, il y a des obstacles. Bien sûr, il y a des difficultés. Nous passons notre temps à discuter entre nous du sens que nous accordons à un film, une pièce de théâtre, une conduite. Rien n'est jamais parfaitement clair.
Et à chercher
clair.
Ces mots, à surtout même mots. Dans notre langue maternelle, nous passons notre temps à faire l'épreuve, l'expérience du décalage entre les mots que nous avons à notre disposition et ce que nous voulons dire. Il y a un décalage même dans la langue maternelle. Celle-ci est peut-être inquestionnée dans la manière que nous avons de l'utiliser. Quand je vous parle, je ne suis pas sans cesse en train de réfléchir à ce que, aux mots que j'emploie. En revanche, je suis peut-être sans cesse, et surtout à la radio, en train de m'interroger sur la pertinence du mot choisi par rapport à l'intention que je veux exprimer.
Oui, certainement. Mais ça, c'est déjà, je dirais, un travail professionnel et un travail, si on voulait employer un grand mot, un travail d'herméneutique, c'est-à-dire un travail d'interprétation. Forcément, à la radio ou dans toute profession dans laquelle vous avez une communication générale, vous êtes obligé de faire très attention à ce que vous dites, de chercher vos mots, notamment dans la condition du direct.
Oui, mais c'est dans le cas de la diplomatie, dans le cas d'un entretien professionnel, quand on parle à son enfant, son parent, on fait souvent attention.
C'est vrai. On pourrait tout à fait soutenir que nous avons souvent des difficultés même dans notre langue maternelle, pour bien interpréter correctement ce que quelqu'un nous a dit, par exemple, le sens d'une petite réflexion qu'on nous a fait au passage. Mais néanmoins, je crois que même si on accorde tout ça, la langue maternelle est quand même le lieu d'une espèce de miracle, d'une espèce de confort. Quand vous rentrez d'un pays étranger au bout de quelques mois et que vous entendez, enfin c'est mon expérience personnelle, que vous entendez parler dans un café pour la première fois, vous en pleurez presque d'émotion. Tout devient facile. Le monde est transparent. Et donc, là, je crois qu'il y a un très puissant exemple et qui ne peut pas manquer de se transformer en fantasmatique. Et donc, Derrida, qui d'ailleurs avait un grand attachement à sa mère, à sa famille, et qui vient d'une civilisation méditerranéenne, n'ignorait absolument pas ce fait. Il a toujours été un grand orateur, et en même temps, il savait très bien... Par sa formation, il venait d'Algérie, ensuite il est venu en France, et puis ensuite il est allé aux États-Unis principalement, en passant un peu par l'Allemagne. Donc c'est quelqu'un qui, le dit souvent lui-même, n'a jamais été tout à fait à l'aise dans une langue plutôt qu'une autre. Puisque le français qu'on parlait en Algérie, avec son accent pied-noir dont il dit qu'il a honte dès qu'il s'énerve, n'était pas exactement le même que le français de la capitale, plus pointu, plus prétentieux peut-être. Et puis évidemment ensuite il y a l'anglais. Donc Derrida a fait cette expérience des décalages. Néanmoins, donc peut-être qu'il était bien placé, si vous voulez, pour... se rendre compte que même au sein de la langue maternelle, il y a toujours cette petite inquiétude, cette petite étrangeté, cette petite marginalité. Mais c'est quand même une expérience particulière pour la plupart d'entre nous. La langue maternelle est vraiment le lieu d'un confort tout à fait exceptionnel.
D'ailleurs, Derrida parle de cette expérience d'altérité à sa langue dite maternelle dans un des plus beaux textes sans doute de Derrida, et pour le coup assez facile d'accès et vraiment très émouvant, qui s'appelle « Le monolinguisme de l'autre ». Qu'on trouve aux éditions Galilée, comme la plupart des ouvrages de Derrida. Écoutez un extrait de cette déclaration d'amour à la langue française dont il se désole qu'elle ne soit pas complètement sienne.
Je suis monolingue. Mon monolinguisme demeure et je l'appelle ma demeure et je le ressens comme tel. J'y reste et je l'habite. Il m'habite. Le monolinguisme dans lequel je respire, même c'est pour moi l'élément. Non pas un élément naturel, non pas la transparence de l'éther, mais un milieu absolu, indépassable, incontestable. Hors de lui, je ne serai pas moi-même. Il me constitue, il me dicte jusqu'à l'ipséité du tout, il me prescrit aussi une solitude monacale, comme si des vœux m'avaient lié avant même que j'apprenne à parler. Ce solipsisme intarissable, c'est moi avant moi, à demeure. Or, jamais cette langue, la seule que je sois ainsi voué à parler, tant que parler me sera possible, à la vie, à la mort, cette seule langue, vois-tu, jamais ce ne sera la mienne. Jamais elle ne le fut en vérité. Tu perçois, du coup, l'origine de mes souffrances, puisque cette langue les traverse de part en part, et le lieu de mes passions, de mes désirs, de mes prières, la vocation de mes espérances. Mais j'ai tort. J'ai tort de parler de traversée de lieu, car c'est au bord du français uniquement, ni en lui, ni hors de lui, sur la ligne introuvable de sa côte que, depuis toujours à demeure, je me demande si on peut aimer, jouir, prier, crever de douleur ou crever tout court dans une autre langue, ou sans rien en dire à personne, sans parler même. Mais avant tout et de surcroît, voici le double tranchant d'une lame aiguë que je voulais te confier presque sans mot dire. Je souffre et je jouis de ceci que je te dis dans notre langue dite commune. Oui, je n'ai qu'une langue, or ce n'est pas la mienne.
Bon, ce qui me frappe beaucoup, je crois que chez lui, c'est une... Sa pensée se confond non pas avec sa langue, mais avec la langue ou les langues dont on a toujours l'impression qu'elles le traversent constamment. Je crois que dans la pensée moderne, dans la pensée philosophique française, bon, il n'y a pas de langue, je dirais, plus puissante et diversifiée à la fois, plus belle aussi, très très souvent, plus joueuse, bon, que celle de Derrida. Bon, Derrida est quelqu'un dont on reconnaît parfois dans tel ou tel texte que, au fond, il maîtrise parfaitement bien ce que ont toujours maîtrisé les bons philosophes français, c'est-à-dire la dissertation à la française. Mais si, je ne sais pas, moi, on compare un texte de Merleau-Ponty et un texte de Derrida, ça n'est pas là que ça va se faire la différence, mais elle se fait dans l'espèce de circulation de langue prodigieuse qu'il y a dans Derrida et qui n'a pas de correspondance dans d'autres pensées. Du moins, je n'en vois pas. Et à sa manière, je dirais à sa manière et à l'intérieur des limites apparentes du français, parce que je crois qu'il joue sur beaucoup d'autres langues que le français, à sa manière, il a je crois, une puissance comparable à celle de Heidegger. Je ne dirais pas quant au maniement de la langue, mais quant à la capacité à laisser passer en lui ou à se laisser traverser par le jeu des langues.
C'est le philosophe Philippe Lacou-Labarthe qui, en 1986, rendait hommage à la langue de Derrida, enfin, qui était évidemment encore là, mais qui parlait de son... voilà, quelqu'un qui l'a beaucoup connu, Philippe Lacou-Labarthe, avec Jean-Luc Nancy, sont des héritiers du philosophe. Ils ont beaucoup travaillé ensemble. Ce que dit Philippe Lacou-Labarthe est intéressant parce qu'il décrit le rapport de Derrida à la langue comme si c'était une langue étrangère. Le texte de Derrida qu'on a entendu avant, Charles Ramon ne dit pas autre chose avec cette phrase magnifique. Je souffre et je jouis de ceci que je te dis dans notre langue dite commune. Oui, je n'ai qu'une langue, or ce n'est pas la mienne.
Oui, on pourrait, bien sûr, on a déjà commenté d'une certaine façon cette déclaration qui est assez extraordinaire, sur laquelle je peux revenir dans un instant si vous voulez, mais je voudrais profiter quand même de lectures que vous venez de faire pour réinsister sur quelque chose, parce que j'aurais peur que les auditeurs, en entendant tout ce que nous disons en ce moment, retombent dans ce qui est à mes yeux une erreur, et que d'ailleurs que Derrida lui-même, dans un des textes que vous avez lu récemment, tout à l'heure, dénonçait, à savoir que ça serait une sorte de poète, une sorte oui. de littéraire égaré en littérature, un grand rhétoricien, etc. Non, pas du tout. Il est très important pour moi d'insister à ce moment sur le fait qu'il souligne lui-même qu'il est un classique en philosophie. C'est toujours comme ça que je l'ai traité. C'est-à-dire que Derrida a écrit en fait deux types de textes. D'une part, des textes extrêmement compliqués, joueurs, rhétoriciens, où il égare son lecteur pour le plaisir de l'égarer et pour lui rappeler qu'il est en train de lire quelque chose qu'il ne va pas pouvoir si facilement que ça maîtriser. Parce que la maîtrise qui est typique du geste philosophique occidental, être philosophe, c'est maîtriser, c'est être au sommet, si j'ose dire, de l'évolution. Le philosophe est celui qui pense, qui crée une structure du monde et qui en quelque sorte domine l'ensemble. C'est pour ça que l'Occident est à la fois dominateur par ses armes, son industrie, et sa philosophie, c'est-à-dire sa rationalité. Il y a un geste d'emprise et de maîtrise. C'est ce geste même que Derrida essaye de...
C'est une partie de la philosophie occidentale quand même, pas toute. Hein.
Ah non,
c'est pas toute hegélienne ou même heideggerienne. Hein. Tout le monde ne conçoit pas la raison comme une arme pour dominer le monde.
Ben, de toute façon, c'en est une. Vous pouvez pas envoyer des fusées en l'air, vous pouvez pas construire des ponts sans raison.
Oui, mais c'est pas les philosophes qui construisent des fusées.
Ah, mais d'ici, parce que tous nos constructeurs de ponts et de fusées viennent de Descartes, c'est-à-dire d'une domination sans partage de la raison sur le monde. Et c'est d'ailleurs ça que la plupart des philosophes dits postmodernes reprochent. C'est cette espèce de domination qui a été introduite dans le monde entier, cette domination de la raison qui caractérise notre civilisation, ce geste de maîtrise que Derrida a essayé justement de déstabiliser par sa philosophie. Bon, donc, ce que je voulais dire, c'est que Derrida a écrit ce genre de texte, mais il a aussi écrit, et ça on ne le sait pas toujours assez, des textes tout à fait académiques, dans lesquels il adresse des reproches comme un directeur de thèse à ses contemporains sur des détails extrêmement techniques de la philosophie. Il a une controverse célèbre avec Foucault sur l'interprétation de Descartes. Il a une controverse avec Lévi-Strauss sur Triste Tropique. Il a une controverse avec John Searle à propos du langage ordinaire. Et à chaque fois, il se comporte exactement comme les commentateurs les plus scrupuleux, lisant toutes les éditions, toutes les traductions sur Rousseau, la datation du discours sur l'origine des langues. Il s'engage parmi les commentateurs les plus scrupuleux, les plus académiques. Il rectifie les traductions de la Pléiade dans la Pharmacie de Platon, etc. Donc il y a chez Derrida une ambition de vérité, une ambition de classicisme, une ambition de professionnalisme qui est tout à fait constante. Il a toujours reproché à ses détracteurs, les gens qui disaient qu'il n'était pas sérieux, souvent des gens qui ne l'avaient pas lu, justement eux de n'être pas sérieux, c'est-à-dire de n'avoir pas fait le travail que lui fait, c'est-à-dire de lire toutes les éditions, toutes les traductions, et d'être très méticuleux dans la discussion académique. Ça, c'est le premier point. Et deuxièmement, je souhaite aussi insister sur le fait que Derrida est un grand philosophe, en tout cas à mes yeux, aux yeux de beaucoup d'autres, bien sûr, parce que, comme tous les grands philosophes, il a redessiné le champ des concepts. Il a fait faire un progrès à la philosophie. Exactement comme Bergson à son époque, exactement comme Aristote à son époque, c'est quelqu'un qui arrive en disant, voilà, tous mes prédécesseurs ont rencontré des difficultés sans bien comprendre pourquoi ils ont rencontré ces difficultés. Mais moi, j'apporte un nouvel éclairage, un nouveau concept qui permet de comprendre pourquoi mes prédécesseurs se sont trompés. Et là où Bergson, par exemple, va introduire la notion de temporalité pure, là où Aristote avait introduit les notions de puissance et d'acte pour résoudre les problèmes que ses prédécesseurs ou que leurs prédécesseurs n'avaient pu résoudre, lui, Derrida, il apporte un nouvel éclairage, un nouveau projecteur, un nouveau concept, et qu'il projette rétroactivement sur toute l'histoire de la philosophie, et qui est le concept d'écriture. Il vous dit en gros, la plupart des difficultés qu'ont rencontrées les grands systèmes métaphysiques de l'Occident ancien, classique et moderne, viennent du fait que tous ces gens-là n'ont pas pris en compte la notion d'écriture. Ils l'ont oublié. Et finalement, ils ont buté dessus parce qu'ils n'y faisaient pas attention. Et moi, je vous montre comment ils ont buté sur cette notion. Je vous explique leur problème. Et c'est ça la déconstruction. La déconstruction, ça consiste à laisser voir comment Platon, Aristote, Rousseau, Hegel, Kant sont tombés dans des problèmes et des difficultés insurmontables dans leur système parce qu'ils avaient négligé ce petit caillou dans la chaussure, ou plutôt ce petit caillou sous la chaussure, qui est l'écriture, c'est-à-dire la chose même dont ils se servent pour philosopher. Donc Derrida fait faire un très...
Heureusement qu'il est arrivé alors.
Exactement, comme chaque philosophe.
Mais vous pensez vraiment qu'il y a un progrès en philosophie ?
Ah ben, en ce sens-là, oui. Puisque quand vous lisez Derrida, par exemple, si vous avez un peu assimilé Derrida, et que vous voyez par exemple l'opposition qu'il... non pas qu'il crée, mais qu'il révèle chez tous les philosophes entre ce qu'on peut appeler une bonne et une mauvaise écriture. La plupart des philosophes vous disent, Platon en tête, l'écriture, vous avez lu le texte dans le Teut, c'est quelque chose qui va usurper la parole, etc., qui va la déformer, qui va vous rendre apparemment savant, mais en fait vous serez pas savant, puisque vous serez savant dans vos livres, mais pas dans vos têtes. C'est la mémoire morte par rapport à la mémoire vive, si vous voulez. Donc tout ce mépris de l'écriture au sens courant, c'est-à-dire celle qu'on utilise pour écrire des livres, s'accompagne chez les philosophes, chez Rousseau, chez Platon, etc., d'une espèce de respect pour une autre écriture qui serait l'écriture divine, c'est-à-dire le message, la loi morale inscrite dans nos cœurs, comme disent tous les philosophes, le spectacle de la nature qui nous dicte ce que nous devons faire, comme si la nature était un immense texte. Alors là, on a une espèce de respect pour une bonne écriture, qui serait l'écriture divine, l'écriture naturelle, la loi en nous, etc., qu'on n'aurait qu'à écouter ou qu'on n'aurait qu'à suivre, cette voie de la conscience qui serait en quelque sorte gravée dans notre cœur. Eh bien, Derrida vous dit, à partir du moment où vous essayez d'opposer une bonne et une mauvaise écriture, comme font tous ces philosophes, et que c'est structurant pour votre pensée, vous allez inévitablement, inexorablement, dans des impasses, parce qu'à un moment ou un autre, vous allez vous rendre compte que ces deux écritures ne sont pas si différentes que cela. Et tout le geste, tout l'effort que vous allez faire pour les séparer, échouera. Et donc, vous vous ligotez dans une difficulté insurmontable et montre que c'est exactement ce qui arrive à Platon, à Rousseau, et encore bien d'autres philosophes, qui se sont en quelque sorte enfermés dans des pièges dont ils n'ont jamais pu sortir, tout simplement parce qu'ils avaient essayé de distinguer une bonne et une mauvaise écriture, comme certains à notre époque essayaient de distinguer un bon et un mauvais capitalisme, et ce genre de choses. Et là, on fait un progrès dans la pensée.
Dire qu'il est le premier à le dire ne veut pas forcément dire qu'il est meilleur que les autres. Chaque philosophe lègue une trace justement dans l'histoire de la philosophie sans forcément que ça conduise à annuler la pensée des précédents. Ah,
bien sûr, mais la philosophie...
Sinon c'est assez destructeur pour le coup.
Non, parce que progresser en histoire de la philosophie, c'est pas tout à fait la même chose que progresser en science. En histoire de la philosophie, vous progressez quand vous comprenez les raisons des erreurs de vos prédécesseurs. Pourquoi Descartes bute sur telle question ? Pourquoi Kant bute sur telle question? Ils sont comme, il y a un point aveugle dans leur pensée. Et si vous arrivez à voir où est ce point aveugle, vous éclairez, c'est-à-dire vous rendez compréhensible et logique leurs propres difficultés. À ce moment-là, pour le lecteur d'histoire de la philosophie, les choses quand même progressent. Vous comprenez...
Selon une vérité, oui, ça ne tient que si on tient une conception de la vérité au regard de laquelle les autres philosophes se seraient trompés. On pourrait aussi dire que chaque philosophe est l'expression d'un certain point de vue, d'un certain type de vérité qu'on n'a pas à mettre en compétition. Il n'y a pas forcément une téléologie de l'histoire de la philosophie.
Oui, il ne s'agit pas de dire qu'ils se sont trompés. C'est pas ça que j'ai dit. J'ai dit qu'ils se sont pris eux-mêmes dans des pièges. Mmh. Prenez Platon. Platon veut distinguer ce qu'il appelle une bonne répétition, c'est-à-dire la répétition des idées qui sont toujours éternellement elles-mêmes. Et une mauvaise répétition, qui est la répétition du sensible, c'est-à-dire des idées, dans l'intelligible. Eh bien, il ne peut pas, une fois qu'il a posé cette distinction, il ne peut plus la mettre en œuvre parce que on se rend compte que la mauvaise répétition répète la bonne. Je prends un exemple plus simple. On veut distinguer, par exemple, remède et poison. En grec, c'est le même mot, pharmakon. Derrida montre que si vous considérez l'écriture, c'est dans le mythe de Teute, comme un remède à l'absence de la mémoire, on peut aussi bien vous répondre que c'est un poison. Maintenant, essayez intellectuellement de distinguer remède et poison. Vous n'y arrivez pas, c'est impossible. Parce que tout remède est un poison en un sens, tout médicament peut être un mortel, et tout poison est un remède en un autre sens. On ne peut pas définir conceptuellement et distinguer conceptuellement le remède et le poison. Presque tous les philosophes de la tradition ont essayé de distinguer une écriture poison d'une écriture remède. Et Derrida vous dit, ils se sont simplement engagés dans une voie sans issue. Donc, c'est pas qu'ils se sont trompés absolument, c'est qu'ils se sont ligotés eux-mêmes et se sont rendus incapables de faire les distinctions qu'ils fantasmaient.
Une dernière question, Charles Ramon, puisque Derrida est le philosophe de l'écriture, donc on vous a bien compris, et qui pense qu'il y a l'écriture qui pourrait même précéder ou qui serait présente dès la parole. Qu'est-ce qu'il penserait aujourd'hui de l'écriture inclusive, qui pour le coup doit être éplée? C'est exactement la même chose que différence.
C'est une question très intéressante.
Vous aurez le droit de revenir en parler, hein, peut-être si en une minute vous n'avez pas fait le tour.
Mais
la question se pose.
Que j'y réfléchis tout court et à travers Derrida. Ce que dirait Derrida, je n'en sais rien, mais je pense qu'il aurait pu vous dire la chose suivante. Voyons selon les cas. C'est-à-dire que Derrida était quelqu'un, il s'exprimait à ce sujet-là à propos du communautarisme, du nationalisme, du souverainisme, du républicanisme. Ou du politiquement correct. Et Derrida avait une parole qui était la suivante. Voyons les contextes. La déconstruction, c'est toujours la prise en compte des contextes. Donc dans certains cas, il est bon d'être communautariste. Dans d'autres cas, il faut s'en méfier. Dans certains cas, il n'est pas forcément mauvais d'être souverainiste. Dans d'autres cas, ce n'est pas bon. Ça dépend du contexte. Et donc, pour l'écriture inclusive, il vous aurait sûrement dit, voyons le contexte. La déconstruction, c'est toujours la parole « voyons le contexte ». Il n'y a pas de vérité en soi, il y a toujours une vérité contextualisée. C'est ça qu'on lui reprochait souvent, c'est de chercher les contextes. Qui a écrit? Quel était le métier du philosophe? Qui était sa sœur, pour Hegel? Pourquoi il s'intéresse tant à Antigone? Voyons le contexte.
Le contexte, là, est assez clair. C'est comment faire entendre, essayer de déconstruire, pour le coup, la préséance du masculin sur le féminin dans la langue française.
Je vais vous montrer que c'est pas si simple. Je suis toujours confronté à ce problème puisque j'écris à mes étudiants. Est-ce que je dois leur écrire « chères étudiantes, chers étudiants » ou « chères étudiantes ES » ou « chers étudiants » au masculin à l'ancienne ? Pendant longtemps, pendant plusieurs années, j'ai écrit avec l'écriture quasi inclusive, c'est-à-dire j'écrivais « chères étudiantes ES ». Et puis, j'ai été gêné, j'ai réfléchi à la polémique actuelle et j'ai arrêté ce procédé, peut-être qu'on va me le reprocher, mais en tout cas, voilà ma raison. Je suis, au fond, opposé à ce qu'on appelle le sexisme d'État. C'est-à-dire, je ne vois pas pourquoi, on obligerait les gens à se distinguer en tant qu'hommes et femmes. Ben, je suis très choqué que dans n'importe quel formulaire, on vous oblige à vous définir comme monsieur, madame ou mademoiselle, même pour commander une brosse à dents sur Amazon. Donc, obliger les gens dans une adresse à un public à distinguer des hommes et des femmes, à mes yeux, finalement, quand j'y réfléchis bien, c'est d'une certaine façon correct, poli, mais en même temps, c'est rentrer dans ce sexisme d'État. Pourquoi pas mettre monsieur, madame et mademoiselle, comme encore dans certains formulaires français. Donc, je ne vois pas au nom de quoi on nous obligerait à privilégier cette distinction plutôt qu'une autre.
Parce qu'on en privilégie déjà une, le genre masculin étant dominant, elle est déjà là, cette préséance.
Non, je ne suis pas d'accord. Parce que si vous écrivez « chers étudiants à tout le monde », ça veut dire que vous considérez chaque personne comme un individu, qu'il soit homme, femme, grand, petit, blond, brun. Mais si vous dites « chers » et « chères », c'est-à-dire en distinguant le masculin et le féminin, c'est imposer à votre public une distinction sexuelle. Mais peut-être qu'il y a des gens qui ne s'y reconnaissent pas. C'est comme si vous découpiez votre public en des hommes et des femmes. Mais pourquoi ? C'est du sexisme d'État.
Il y a beaucoup de philosophie et de livres de philosophie qui m'ennuient terriblement et que je n'aime pas lire, devant lesquels j'ai beaucoup de résistance. Donc j'essaie de trouver une certaine économie de plaisir dans ce qu'on appelle la philosophie.
Il arrive que lorsque l'on cause, on se comprend plus ou moins bien. Moi, je ne sais pour quelle cause de ce que je dis, on ne comprend rien. À une dame déclarant ma flamme, en m'inclinant, je dis tout bas, ce n'est que votre main, madame, que je vous demande, ça me suffira. Elle m'a traité de goujat. On ne me comprend pas. Pa, pa, pa. Pa, pa, pa. Pa, pa, pa. Sur mon palier, j'ai une voisine qui fait de la couture à façon et qui donne à sa grande gamine pour l'adresser souvent des leçons. Un jour, je la vois à sa machine et comme elle ne cousait pas droit, je dis, c'est qu'elle a une sale bobine, mais sa mère hurle, non mais des fois. Tu ne t'es pas regardé, vieux gaga, on ne te comprend pas, pas papa.
Un grand merci Charles Ramon d'être venu nous parler de Derrida aujourd'hui. Grâce à vous, espérons-le, Derrida ne dira pas qu'on ne le comprend pas comme le chante Dranem. Je renvoie en tout cas les auditeurs à vos ouvrages sur Derrida, le vocabulaire de Derrida, ainsi qu'un dictionnaire Derrida, limpide pour le coup, aux éditions Ellipse. Sur France Culture, les chemins de la philosophie, il est l'heure, comme tous les jours, de retrouver le journal de la philo de Géraldine Mosna-Savoie.
On n'est pas là pour philosopher, Carpentier.
Quand même. Incroyable.
Bonjour Géraldine.
Bonjour Adèle et bonjour à toutes et à tous.
Quelle actualité, alors là, ouais, toutes et à tous, on en reparlera justement. Quelle actualité avez-vous retenue aujourd'hui ?
Eh bien, j'ai retenu une actualité qui est l'actualité de philosophie à l'écran. Philo à l'écran, c'est un projet fondé il y a 5 ans, en 2012, dans le cadre de l'association Clavim de la ville d'Issy-les-Moulineaux et qui consiste chaque année, d'octobre jusqu'à mai, en un cycle de projection de films, un par mois, suivi d'une conversation philosophique. C'est donc une autre manière de faire de la philosophie, en dehors de l'université et sous une forme pratique. Mais pourquoi ? Pourquoi le cinéma se prête-t-il tout particulièrement à cette manière d'en faire et comment peut-il être une expérience philosophique ? Eh bien, réponse avec le fondateur de Philo à l'écran, le chercheur Emiliano Ferrari.
Il ne s'agit pas de chercher dans le film l'illustration des pensées philosophiques qui sont déjà constituées ailleurs, mais de penser à partir du film et avec le film. Pourquoi donc le cinéma ? Parce que le cinématographe, hein, dans l'étymologie grecque, nous dit que le mélange de l'écriture, un mouvement, donc d'un discours, d'un langage qui se fait par des images en mouvement, à travers le son, nous donne et nous permet une expérience de la pensée, disons, qui est sensible, qui est incarnée, qui est visuelle et sonore à la fois, et qui est pour cela propice donc au dialogue entre les images et les concepts. Ça permet donc au spectateur de pratiquer la pensée à travers une expérience qui est colorée par les affects, par les émotions, par l'imagination, et qui ressemble beaucoup plus à la vie que, disons, une simple conversation qui se développerait à partir des propos tenus, des propos théoriques, tout simplement... argumenter et exposer.
Alors bien sûr, si l'idée de cultiver une voie moins rationaliste, plus sceptique de la philosophie, si c'est l'idée de ce projet, elle n'est pas non plus de dire que tout film est philosophique, ni seulement de parler du film uniquement pour lui-même, mais bien d'en dégager un problème. La preuve, par l'exemple, avec le premier film projeté en octobre, c'était 28 jours plus tard de Danny Boyle avec tous ses zombies.
Mon idée, c'était par exemple que les zombies, donc cette figure de l'imagination, monstrueuse, horrible, n'est pas juste là pour nous effrayer et nous faire peur. Il y a déjà un plaisir, nous savons, dans la peur, et c'est aussi un mobile qui nous pousse à regarder les films d'horreur. Cette excitation donnée par la peur et la terreur. Mais en même temps, le zombie, par exemple, dans ce film, mais aussi dans la tradition qui remonte à George Romero, évidemment, le zombie nous pose un problème, c'est lui, par exemple, de comment peut-on défendre notre humanité et la préserver là où tout espoir de la préserver est disparu, dans une société où les hommes se mangent entre eux. Donc le zombie, un film sur le zombie, peut devenir en même temps un plaidoyer pour l'humanité. Et il nous montre à travers ce type d'épreuves horribles, comment certains hommes confrontés à ce type d'épreuves développent des stratégies, des pensées, d'actions pour préserver l'humanité, pour même la reconstruire, la rebâtir.
Autre exemple encore de cette philosophie hors les murs et à l'écran, elle s'adresse à tous et elle propose un cycle de projection destiné pas seulement aux adultes mais aussi aux enfants.
Les enfants sont très réceptifs à tout contenu que leur est proposé. Et donc à la suite du film, dans une atmosphère qui est d'abord totalement noire, nous allons allumer des bougies pour symboliser évidemment cette lumière de la pensée. Nous allons faire une cueillette des idées, c'est-à-dire que nous allons recueillir, je vais recueillir avec les enfants, donc leurs idées, leurs arguments, et nous allons après les cuisiner, les mettre ensemble, et essayer donc de clarifier un peu à travers celle qu'on appelle ensemble la lumière de la pensée, qu'est-ce que le film nous a raconté, qu'est-ce qu'il nous a fait ressentir, qu'est-ce qu'il nous a montré. Et cela permet aux enfants, d'une façon ludique et évidemment conviviale et pas sérieuse, de commencer à se confronter, et ils le font déjà d'ailleurs dans leur vie, à certaines problématiques comme la peur, la mort, l'amitié, très simple, la solidarité, et essayant de gagner une réflexivité, une distance, et de commencer à regarder ces problématiques et non seulement à les ressentir.
La philo à l'écran, c'est donc tous les mois ici les Moulineaux à la Halle des Épinettes grâce à l'association Clavim. La prochaine projection, c'est samedi 18 novembre avec le film de Jean-Stéphane Bron, L'Opéra. Et cette question, quelle est la source de la solidarité? Puis il y aura aussi Parle avec elle sur la rencontre amoureuse ou encore Jimmy's Hall de Ken Loach. Et puis sans oublier aussi la programmation pour les enfants, on mettra tout en ligne.
Merci beaucoup Géraldine. Et merci à David Pargamin qui a préparé cette émission, ainsi que Maud Markiewicz, Claire Perriman-Holt, Marianne Chassor, vous-même Géraldine Mosna-Savoie, Nicolas Berger qui réalise cette semaine, Yvan Morane qui était à la lecture des textes, Élise Leu à la prise de son aujourd'hui. On se retrouve demain pour les chemins du vendredi. Demain, je recevrai la philosophe allemande Caroline Hemke pour son ouvrage « Contre la haine ». Une intellectuelle allemande qui est aussi reporter de guerre et qui est à suivre de très près. Et demain, je vous donne également rendez-vous à Lille, au Palais des Beaux-Arts de Lille, où nous allons poser nos micros demain, vendredi et samedi, pour y enregistrer 4 émissions à l'occasion du festival Cité Philo, qui porte cette année sur le thème de la croyance. Delphine Horviller, Camille Riquier, Claudine Tiercelin et Ariel Suami seront mes invités. Et ces émissions enregistrées à Lille seront diffusées la semaine prochaine, à l'heure habituelle. Des chemins, rendez-vous sur notre site internet pour réécouter l'émission et la télécharger, la podcaster afin de l'écouter où vous voulez et quand vous voulez. Rendez-vous aussi sur nos pages Facebook et Twitter où nous attendons vos remarques, vos commentaires. Et rendez-vous surtout à demain, 10h donc. Mais d'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.